ceux qui ne sont pas encore venus. Je suis contente de revenir hein, parmi vous là, cette deuxième prédication. Voilà. Comme vous le voyez, mon thème aujourd'hui c'est la grâce. C'est la grâce parce que j'ai été confrontée ces derniers mois à des circonstances, des difficultés, des épreuves qui m'ont permis de voir la grâce de Dieu dans ma vie, dans notre vie. C'est fort. Il y a eu des moments vraiment forts de concrets, d'expérience. Et puis, il y a eu certaines discussions aussi avec des amis chrétiens qui m'ont convaincu que ça valait la peine d'approfondir le sujet parce que on peut vite tomber dans du légalisme. C'est vite fait. Et voilà. La grâce est, à mon avis, fondamentale. Et il se trouve que dans notre groupe d'études bibliques, nous commençons Romains. Et les premiers versets de Romains m'ont encore frappé. Maya, si tu veux les mettre. Voilà, j'ai mis juste Romains 5, 1-5 et Romains 1-7. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Et dans... En lisant ce début de Romains, les deux termes, enfin, la grâce apparaissant là deux fois, j'ai bien vu que, j'ai été interpellée, je me suis dit, est-ce que c'est le même sens? Est-ce que c'est le même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent? Alors là, évidemment, Paul qui reçoit la grâce d'être apôtre, il reçoit une faveur, une bonté, il reçoit quelque chose de Dieu qui lui fait, qui donne le privilège d'être apôtre alors qu'il a été persécuteur. C'est déjà très interpellant. Et là, la grâce et la paix, vous avez remarqué que toutes les lettres de Paul démarrent avec cette phrase-là. La grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les lettres de Paul démarrent avec cette prière, ou ce souhait, cette bénédiction. Et toutes les lettres de Paul finissent avec la grâce. La grâce vous soit donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Toutes. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et ça m'a vraiment interpellée. Ça m'a vraiment... Voilà, je me suis dit, il faut que je creuse le sujet. Là, vraiment, il faut que je m'y mette. Alors, je pense que là, ici, que Paul le répète dans chaque lettre, je pense qu'il nous dit quelque chose de très important. Alors si on étudie, si on s'intéresse, si on commence à se plonger dans les bouquins, ce que disent les commentateurs sur la grâce et la paix vous soient données, c'est selon eux, et c'est vrai, c'est juste, une manière d'introduire la lettre, voilà, c'est une salutation, qui résume l'évangile. La grâce, c'est la grâce du salut. La grâce du salut vous est donnée, elle est là, vous la connaissez, elle vous est donnée par Dieu, en Jésus-Christ. Et la paix, c'est la paix de la réconciliation. Si vous êtes réconcilié avec Dieu par le salut, vous êtes en paix avec lui. Donc l'évangile est résumé déjà dans ces deux mots à travers cette salutation. Et voilà, c'est certainement pour ça aussi que Paul la met dans chacune de ses lettres au début. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Je pense que Paul dit quelque chose de plus profond, vraiment, en nous donnant, en nous proposant, en nous redisant que Dieu nous donne cette grâce et cette paix. Je pense que vraiment, Paul creuse quelque chose de plus profond pour nous. Je pense que Paul nous dit quelque chose pour le quotidien, en fait. Je pense vraiment, et moi je l'ai constaté ces derniers mois, je ne dois pas être la seule. Je pense vraiment que la grâce et la paix sont nécessaires pour vivre au quotidien, pour notre vie au quotidien. Vraiment. Et que Paul le dise et le redise, c'est parce qu'il sait que moi, lectrice de ces lettres-là, j'ai besoin de ne pas perdre cette grâce de vue. Jamais. Chaque jour. Tout le temps. Alors je vous propose de creuser ce thème. Voilà. Ce thème de la grâce pour aujourd'hui. Et comme je reviens en février, je vous propose de creuser le thème de la paix. La prochaine fois. Alors, pour commencer une rapide étude, théologique ramassée, je ne vais pas passer du temps dessus, mais quand même pour bien se caler. Maya, si tu veux bien mettre... Voilà. Le mot grâce, évidemment, on le retrouve, bien sûr, du début à la fin de la Bible. Mais comme point de départ, on peut prendre Exode 34, 6 et 7. C'est un point de départ important parce que Dieu parle de lui. Voilà. Il dit vraiment quelque chose de lui. C'est une révélation divine. L'Éternel. L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Donc cette révélation divine fondamentale, elle est reprise en nombre, en Deutéronome, en Psaume, Joël, Jonas, Néhémie, 2 Corinthiens, donc bon, plus d'une dizaine de fois. Et donc, voilà, fondamental dans ce que Dieu dit de lui. Exode 34, c'est juste après l'épisode du veau d'or. Les Hébreux ont reçu les 10 commandements. Moïse monte sur le Sinaï et quand il redescend, c'est le veau d'or. C'est quand même inouï que Dieu disent cela de lui après la trahison, l'irresponsabilité, l'infidélité de son peuple qu'il a sorti d'Égypte par la mer Rouge. Ils ont vu des choses énormes. Ils trahissent et Dieu dit quand même ça de lui. Donc là, on voit tout de suite la qualité de la grâce de Dieu. Elle est vaste, très très vaste. La grâce de Dieu, c'est l'expression de son amour, mais aussi de sa puissance. C'est un Dieu puissant, il a ouvert la mer Rouge, il fait des choses énormes par grâce. Donc son amour et sa puissance sont manifestés dans ses œuvres de grâce. La grâce inclut la notion de miséricorde, de bonté, de pardon, d'acceptation, de fidélité, de salut, de justice. Voilà, je vous disais qu'elle était vaste. Elle est totalement imméritée. Là, le peuple de Dieu, évidemment, ne mérite que la colère. D'ailleurs, Moïse intercède. Moïse, quand même, négocie avec Dieu pour qu'il ne les détruise pas. Voilà, elle est totalement imméritée. Elle n'a rien à voir avec les actes humains, rien. Elle part de Dieu, toujours. C'est Dieu qui donne la grâce. Et elle est, parce qu'elle se vit dans la relation. C'est vraiment dans la relation de Dieu avec nous et de nous avec Dieu que Dieu donne et pourvoit. Alors on parle de deux types de grâce, parce qu'il y a quand même la grâce commune qui est dirigée pour tous les hommes à travers le fonctionnement naturel de la planète, le soleil, la pluie, le manger, le boire, tout le monde en bénéficie. Tous ceux qui sont sur cette planète, c'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Mais il y a aussi la grâce spécifique, celle qui est accordée à ceux qui se tournent vers Dieu, qui sont conscients de leur péché et de leur indignité. Elle fait face à la culpabilité de l'homme avec compassion, avec amour, pour l'accueillir tel qu'il est et lui proposer le salut. Donc la grâce est l'expression du plaisir que prend Dieu en ceux qui reflètent l'image de Christ. Nous sommes, nous, au bénéfice de cette grâce particulière qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous unit à Christ et qui nous appelle à son service. Et l'œuvre culminante de la grâce de Dieu, c'est bien sûr le salut en Jésus-Christ, comme restauration de l'humanité. Voilà. Nous, nature déchue, nous sommes restaurés, complètement restaurés, par l'œuvre de la grâce de Christ. Donc voilà pour la grâce en général. On va creuser maintenant l'expérience de la grâce. Quelle est votre expérience de la grâce? Alors, si vous êtes enfant de Dieu, Jésus-Christ est votre sauveur et Seigneur. Donc, vous êtes au bénéfice de cette grâce du salut qui a été accordée, qui vous a été accordée. Chacun, c'est pas accordé comme ça. En gros, il faut que chacun nous répondions. Donc chacun d'entre vous qui êtes en Christ est au bénéfice de cette grâce et vous en êtes reconnaissant. Bon, si vous n'êtes pas encore chrétien, vous êtes quand même au bénéfice de la grâce commune. Voilà, celle qui est dispensée à tous. Et même si vous n'en êtes pas conscient. Nombreux, bien sûr, ben, je veux dire, les hommes ne sont pas conscients de cette grâce commune dont ils bénéficient pourtant. Alors, voilà, vous connaissez cette grâce du salut, c'est vrai. Nous connaissons, je connais cette grâce du salut. Maintenant, quelle est votre expérience renouvelée régulièrement de la grâce? Est-ce que elle vous visite? Est-ce que vous savez qu'elle est là pour vous chaque jour, dans toutes les circonstances? C'est pour ça que je reviens juste à Romains, et cette grâce que Dieu fait à Paul de lui confier le ministère d'apôtre alors qu'il a été persécuteur. Très grande grâce, et Paul le sait. Mais aussi à cette grâce qu'il nous souhaite, qu'il souhaite en début de chaque lettre. Donc, Paul nous redit ça parce que il sait, il est lui-même confronté à ses limites tout le temps. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous faibles, nous sommes tous limités, chacun. Et nous avons besoin de cette grâce au quotidien. Alors, comment la saisir encore et encore alors qu'elle est offerte, elle est première, elle est toujours disponible? Et là, je vous propose de regarder Hébreux 4, 16. Approchons donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Nous avons là des choses à faire. Paul prie donc au début de ses lettres pour qu'elles nous soient données. Mais nous, il faut quand même que nous nous approchions. Approchons-nous. Commençons par là, du Dieu de grâce. On a une deuxième chose à faire. Il faut que nous nous approchions avec assurance. Quelle assurance? L'assurance du salut. Quand nous nous approchons du Dieu de grâce, en tant que chrétien, nous savons que nous avons le salut. Même si nous sommes très imparfaits, bien souvent, à sortir du chemin, comme on le disait dans les prières, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Néanmoins, allons-y avec assurance, parce que Dieu nous voit à travers Christ. Nous avons la grâce du salut, c'est fait. Nous pouvons aussi y aller avec assurance, parce que nous savons que nous sommes aimés. Il nous accueille tel que nous sommes. Nous sommes aimés, vraiment. C'est un Père tendre et bon qui va ouvrir les bras quand nous nous approchons de lui. Donc nous pouvons y aller avec assurance. Et là, nous voyons que Dieu accordera, donnera sa bonté, sa grâce. C'est donné. Donc quand nous allons devant le trône avec assurance, nous y allons avec nous, tels que nous sommes, remplis de nos limites, faiblesses, besoins et demandes. Et Dieu donne pour que nous soyons secourus au bon moment. Parce que nous avons un Père qui sait ce dont nous avons besoin, qui nous accueille, qui nous entend, qui veut nous combler. Alors je vous invite à regarder cœur de votre vie, chacun, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour contempler les perles de grâce que vous avez reçues. Vous avez peut-être même reçu des diamants de grâce. Je pense que selon les circonstances et les époques de nos vies, la grâce se manifeste différemment, bien sûr, mais elle est toujours, toujours là, toujours donnée, toujours première. Elle va être fonction de qui nous sommes et de notre besoin au moment où elle se manifeste. Dieu sait ce dont nous avons besoin pour continuer sur le chemin de la sanctification. Et c'est vrai que le chemin peut être étroit, vraiment raide, par moments. passons par cours de nos vies par des moments très difficiles, que ce soit le deuil ou la maladie, ou le chômage, ou la dépression, ou les divorces, ou les conflits. D'ailleurs, la condition humaine, elle est difficile quand même. C'est pas nouveau, on le sait. Mais la grâce de Dieu qui abonde nous est toujours et encore offerte gratuitement. Elle est toujours et encore imméritée. En fait, la grâce de Dieu, elle n'est qu'amour sans autre raison que l'amour. Elle va nous conduire à la reconnaissance et à l'adoration. Et je pense que, à la contempler, on est déjà sur un chemin de nourriture, de guérison. On la savoure et elle nous guérit. Elle nous remplit et elle nous conduit. Alors pour ma part, j'étais gardée de manière surnaturelle lors d'une chute de chaise en mai. Je suis montée sur une chaise pour aller ranger des affaires tout en haut d'une étagère. Et la chaise a glissé. Et je suis tombée. Je suis tombée sur le dos, sur les fesses et le dos et la tête. Ça, c'était vraiment une chute forte. Et dans cette chute, je me suis dit, oh là, je vais me faire mal. J'aurais dû me faire mal. J'aurais même pu me faire très mal. Mais il n'y avait rien. Rien. Je me suis relevée, je n'avais pas la moindre douleur. Donc j'étais encore folle. Je ne peux pas dire autrement, j'étais folle. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est énorme ce qui vient de m'arriver, c'est énorme. Bon, je pense que Dieu vraiment m'a parlé, je sais, j'ai vu par la suite qu'il me disait quelque chose à travers ça. Mais voilà, il a manifesté sa grâce d'une manière très particulière à ce moment-là et je sais pourquoi pour la suite. On a d'ailleurs été gardés lors d'une panne de moteur très importante sur l'autoroute où on a eu un violent moment de panique et d'effroi avec les deux enfants. On a été totalement gardé. Grâce. Je pense que vous savez, Daniel, il a dû témoigner de la grâce dont il a été l'objet à travers cet hygroma. Il a permis l'hygroma, il a permis la panne. Mais la grâce est là. La grâce est là. Voilà. Donc nous sommes au bénéfice de la grâce et nous sommes témoins de la grâce de Dieu envers quelqu'un. Et je pense que quand on partage ce qu'on a vécu, dans ce que Dieu peut faire dans les vies, eh bien on est encouragé, réconforté. Alors vous avez aussi peut-être vu des personnes qui ont accepté l'œuvre de Jésus-Christ, donc la grâce initiale, hein, la grâce du salut, qui ont accepté l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie. Et vous savez aussi combien c'est dynamisant et exaltant. Hein. Donc je pense que être témoin, tu peux mettre Maya, témoin de la grâce de Dieu, c'est aussi un élément très très important dans notre vie de foi, dans notre vie de chrétien. C'est source de louange et d'adoration, tout autant que d'en être au bénéfice. Alors là, je vais encore aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez déjà été choqué par la grâce de Dieu? Ça vous est arrivé d'être choqué par la grâce de Dieu? Je pense qu'elle peut choquer. Alors, je ne vais pas expliquer en détail, mais voilà, je vais résumer Matthieu 20, 1 à 16. C'est l'histoire de ces ouvriers de la première et de la dernière heure. Secoue, moi, je trouve, cette histoire, les ouvriers des premiers et de la dernière heure. Ceux de la première heure savent qu'ils vont être payés, je ne sais plus, c'est un talent, enfin bon, ça varie selon les versions, ils ont le contrat, ils seront payés ça pour la journée, ils le savent. Et voilà que les ouvriers de la dernière heure arrivent, ils sont embauchés aussi, et à l'arrivée, le maître paye les ouvriers tous de la même façon. Et là, les ouvriers de la dernière heure sont très contents. Et ceux de la première heure, ils sont énervés, hein, pas contents. Alors, est-ce qu'ils sentent ça comme une injustice? C'est pas ça, en fait. C'est pas une injustice, parce qu'ils ont été payés ce qu'on leur avait dit qu'on les paierait. Est-ce que je suis claire? Dieu n'a pas été injuste avec eux, le maître, il n'a pas été injuste avec eux, puisqu'ils ont le salaire qu'on leur avait dit. Donc, ils ne sont pas énervés, parce que c'est pas une injustice. Ils sont énervés parce que le maître est bon. Eh oui. Ils s'indignent de la générosité du maître. Le Dieu de grâce, qui fait grâce d'une manière complètement inouïe, quoi, hein, qu'on comprend, on peut même ne pas comprendre. Voilà, on peut même être agacé. Voilà pourquoi la grâce, elle peut carrément être scandaleuse. Elle ne fonctionne pas selon les systèmes de calcul humain, la grâce de Dieu. Elle n'obéit pas à la loi du marché. Elle n'obéit pas à la loi du mérite. Et donc, elle fait réagir. Et quand on est témoin, voilà, d'une grâce comme ça, on peut réagir. Alors là, je peux... Voilà, moi, j'ai lu des témoignages, voilà, des histoires. Je ne sais pas si vous en avez certainement déjà lu aussi. Il y en a une dans Porte Ouverte du mois dernier, à propos de pasteurs, de chrétiens en Syrie qui sont confrontés, évidemment, à une persécution terrible de la part de tous les membres de l'État islamique. Hein, donc, c'est une abomination, hein, je veux dire, la persécution va au-delà de ce qui est supportable. Et pourtant, dans Porte Ouverte, donc ils disent que Dieu touche de ses persécuteurs. C'est-à-dire qu'il y a des persécuteurs qui se convertissent et qui finalement demandent à entendre parler de Dieu. Alors, c'est une grâce inouïe, je veux dire, ils sont bénéficiés d'une grâce complètement incroyable. Et c'est beau, je veux dire, nous on se réjouit, on est contents. Mais maintenant, mettez-vous une seconde à la place de la personne traumatisée par ses persécuteurs. Elle a vu des décapités, elle a vu des choses monstrueuses. Et elle voit maintenant que Dieu gracie. Voilà. Ils se convertissent. Ils sont graciés. C'est quand même impressionnant. Moi, j'avais lu le témoignage aussi d'un enfant soldat au Nigeria qui persécutait. Je veux dire, bon, là, ces enfants soldats, je veux dire, ils sont éduqués à tuer d'une manière complètement inouïe parce que les préparations sont démoniaques. Hein, je veux dire, ils font des préparations complètement démoniaques pour ensuite partir sur le champ de bataille et tuer et décapiter, pareil, les chrétiens. Je veux dire, j'ai lu des trucs, c'est affreux ce que j'ai lu, affreux. Cet enfant soldat qui s'est converti, il a senti à un moment donné que ce qu'il faisait n'était pas bien. C'est dans la nuit, c'est pas bien, c'est pas bien. Et il a fini par se dire, mais qu'est-ce qu'il dit que c'est pas bien? Ça vient d'où, ce c'est pas bien? Ben, Jésus s'est révélé à lui une nuit, hein, il a vu Jésus qui lui dit « C'est moi, Jésus, qui te dit que c'est pas bien. » Donc il a gardé ça pour lui, il s'est dit « Oh là là, oh là là !» Puis voilà, il a essayé de trouver des chrétiens, et voilà, il en a trouvé, il a dit « Voilà, Jésus me dit, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Donc bon, il s'est retrouvé dans une position délicate, étant encore enfant soldat, ne plus voulant participer à ça, enfin bref, il s'est converti. Il a dû se mettre à l'abri, quitter, etc. Bon voilà, passer par un chemin évidemment compliqué, mais il s'est converti. Et pourtant, on a fait des choses atroces avant. Même Paul qui a été un persécuteur de chrétiens, hein, il a participé. Il haranguait la foule pour qu'il lance des pierres sur les chrétiens. Paul a été appelé à être apôtre, gracié. Je veux dire, imaginez ses contemporains, on le sait, on le voit dans l'acte, ils sont choqués. Ils sont choqués. Est-ce que c'est du lard ou c'est du cochon? C'est quoi là? Non, c'est Dieu. C'est la grâce de Dieu qui touche, qui transforme. Voilà, c'est énorme. Alors moi, personnellement, je me suis retrouvée scandalisée à un moment donné. La parabole de la brebis perdue. C'est aussi très belle illustration de la grâce et du scandale de la grâce. Parce que Dieu envoie chercher la brebis perdue. Alors oui, c'est bien d'aller chercher la brebis perdue. Moi, personnellement, j'ai reçu un appel très précis, il y a quelques années de ça, à aller chercher une brebis perdue. Seulement, j'avais pas envie d'y aller. Oh, la brebis perdue, j'avais pas envie d'y aller. Elle me gonflait, la brebis perdue, j'ai pas envie d'y aller. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bataillé pendant 2 mois avec Dieu en disant, non, t'as pas dû me dire ça. J'ai dû me tromper, J'ai mal compris.
Non,
j'ai bataillé. Vous savez ce qu'il a fait, Dieu, dans mon cœur?
Il m'a dit, t'es comme Jonas.
Ah! Ah ben oui. Moi, j'avais pendant 2 mois bataillé avec Dieu à me dire, bah non, j'ai pas dû comprendre, ou c'est pas ça que tu me dis. Et Dieu me disait, en fait, t'as pas envie d'y aller. Parce que tu l'as condamné. Parce que tu veux pas t'en occuper. C'est ça. Tu veux pas lui annoncer la repentance. Et là, j'ai dit, oh, oui, c'était ça qui était au fond. Moi, je le mettais pas à la conscience, hein. Mais c'était ça qui était au fond. Je ne voulais pas y aller parce que je considérais qu'elle n'en valait pas la peine. Et ben voilà, j'étais comme Jonas. Donc à partir de là, j'ai dit « Amen Seigneur, j'y vais ». Et le jour où j'ai concrétisé mon engagement, voilà, j'y suis allée, Dieu m'a confrontée à la prédication de la brebis perdue et retrouvée. Et qu'est-ce qu'a dit le pasteur ce jour-là? Il a dit haut et fort, « Qui sommes-nous pour juger de qui Dieu va aller chercher ?» Qui sommes-nous? Qui suis-je, moi, pour juger de qui est digne d'être touché par la grâce de Dieu? Oui, je crois que la grâce, elle peut être parfois chaude. C'est comme ça. C'est tant mieux. Elle nous dépasse, elle est vaste. Rappelons-nous que tout est grâce. Notre capacité de respirer, de penser, de prier, de nous repentir, notre capacité de nous repentir, notre capacité d'aimer, bien sûr. Tout est grâce. En permanence, nous sommes au bénéfice de la grâce de notre Père, par Jésus-Christ. Cette œuvre qui découle de son amour et de sa puissance divine. Dans la grâce de Dieu, son amour et sa puissance sont à disposition pour chacun. Alors revenons à Paul qui prie dans chacune de ses lettres pour que Dieu donne la grâce et la paix. C'est fondamental. Ce que Paul annonce là, dit encore et encore, est fondamental pour que nous y restions, pour que nous ne la perdions pas de vue. Alors allons maintenant avec assurance devant le trône de grâce, tel que nous sommes, pour nous attendre aux bontés de notre Père. Demandons-lui ce dont nous avons besoin. On a peut-être besoin de courage. On a peut-être besoin de patience. On a peut-être besoin de persévérance dans l'épreuve. On a aussi peut-être besoin d'une guérison intérieure ou physique. Peut-être besoin de plus de foi. Alors quand et comment Dieu donnera, on ne sait pas. C'est selon son omniscience et sa souveraineté. Mais il donnera parce qu'il est un Père bienveillant qui aime ses enfants. Alors je vous propose de prendre quelques minutes prier chacun devant le trône de grâce en fonction de qui vous êtes, de votre vie. Et je terminerai.